Bon, quand on fait une lecture suivie comme ça, une série, on revient un petit peu sur sur le contexte dans lequel on a laissé le texte. Et alors, je vais un petit peu échapper à cette tradition, mais je le ferai au fur et à mesure hein, de notre étude, parce qu'on aura quand même besoin de s'appuyer dessus. Et donc, je vous propose de lire le chapitre 2. Du livre de Daniel. Nous partageons cette lecture en trois parties. Et donc, je vous invite à lire jusqu'au verset 13. La dernière année du règne de Nabucodonosor, le roi fit un rêve qui le troubla au point qu'il en perdit le sommeil. Il ordonna de convoquer les mages, les magiciens, les sorciers et les astrologues pour qu'ils lui révèlent ses rêves. Ils vinrent et ils se tinrent devant le roi. Celui-ci leur dit: J'ai fait un rêve et mon esprit est tourmenté par le désir de savoir ce que c'était. Les astrologues dirent au roi en langue araméenne que le roi vive éternellement. Raconte le rêve à tes serviteurs et nous t'en donnerons l'explication. Le roi répondit aux astrologues: Ma décision est ferme. Si vous ne me révélez pas le contenu du rêve et son interprétation, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas de décombres. Mais si vous me les révélez, je vous comblerai de cadeaux, de dons et de grands honneurs. Exposez-moi donc mon rêve et ce qu'il signifie. Ils dirent pour la seconde fois au roi: Que sa majesté raconte le rêve à ses serviteurs et nous lui en donnerons l'explication. Le roi rétorqua: Je vois ce qu'il en est. Il est clair que vous cherchez à gagner du temps et parce que vous avez compris que ma décision est fermement arrêtée. Si vous ne me faites pas connaître le rêve, une seule et même sentence vous frappera. Vous vous êtes mis d'accord pour me débiter quelques discours mensongers et trompeurs en espérant qu'avec le temps la situation changera. C'est pourquoi, dites-moi ce que j'ai rêvé et je saurai que vous êtes capable aussi de m'en donner l'interprétation. Les astrologues reprirent la parole devant le roi et lui dirent: Il n'est personne au monde qui ne puisse faire connaître à Sa Majesté ce qu'elle demande. Aussi jamais roi si grand et si puissant qu'il ait été n'a exigé pareille chose d'aucun mage, magicien ou astrologue. Ce que le roi demande est trop difficile. Et il n'y a personne qui soit capable de révéler cette chose au roi, excepté les dieux, mais eux, ils n'habitent pas parmi les mortels. Là-dessus, le roi s'irrita et entra dans une violente colère. Il ordonna de mettre à mort tous les sages de Babylone. Lorsque le décret de tuer les sages fut publié, on chercha aussi Daniel et ses compagnons pour les mettre à mort. Ce passage nous décrit la manière avec laquelle Daniel et ses compagnons se trouvent soudain pris dans une péripétie de l'histoire qui a priori ne les concernait pas ou pas directement. Les raisons de leur présence au service de Nabucodonosor étaient, je cite, on les a vus au chapitre 1, faire venir des Israélites de lignée royale ou de famille noble, quelques jeunes gens sans défaut physique et de belle apparence. Ils devaient être doués d'intelligence, de sagesse dans tous les domaines et posséder de grandes connaissances, être vigoureux et capables d'apprendre la science pour entrer au service du palais royal et apprendre la langue et la littérature des Chaldéens. Position difficile, sans doute, embarrassante, mais il n'y a là rien de très novateur. Attirer, capturer parfois, comme ici, les élites des pays que l'on a vaincus est une pratique courante depuis la nuit des temps, après une guerre au même titre que le butin ou le tribut. Et le dernier exemple historique qui me vient en tête est la course au cerveau allemand à laquelle se sont livrés les États-Unis et l'Union soviétique à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et d'ailleurs, cet exemple nous fournit les deux méthodes employées. L'attrait, l'attirance américaine d'un côté, d'une part, la capture et la déportation par le camp soviétique, d'autre part, pour des ingénieurs allemands en matière de fusées. Et de fait, rien ne pouvait attirer Daniel et ses compagnons à Babylone. Juifs pieux, scrupuleux, à Babylone, le siège de tout l'occultisme, de toute la paganité. Et c'est bien contre leur paganisme, c'est bien contre leur gré qu'ils se retrouvent pris dans cette tourmente. Sur la base de ce passage, on pourrait dire sans doute beaucoup de choses sur les pratiques habituelles des rois de l'époque, le recours aux magiciens, mages, sorciers, astrologues, mais on serait sans doute surpris de la part de superstitions qui a influencé et influence encore aujourd'hui les pouvoirs en place. On peut aussi s'interroger sur la relation qui lie les deux entités, laquelle tient l'autre. Quel avantage retire chacune d'elles de cette relation? On le voit ici en creux, le roi en a assez des imprécisions et du flou qui entourent habituellement les prédictions et les interprétations des personnages qu'il a néanmoins sollicité et très probablement favorisé. Et de même, aujourd'hui, l'usage concomitant du favoritisme, de la crainte et de l'arbitraire sont toujours les caractéristiques des pouvoirs autoritaires. Mais je voudrais plutôt nous inviter à considérer la situation vue et vécue par ceux qui la subissent et n'ont pas grand pouvoir pour en infléchir le cours, ou du moins pour l'instant. Et nous avons vu au chapitre 1er comment Daniel est parvenu à tenir une ligne de crête très étroite entre les graves ennuis d'un côté et la désobéissance à la loi mosaïque de l'autre, et ceci sans se compromettre. Nous avons vu aussi comment il a pris sous son aile ses trois compagnons pour les conduire habilement sur ce chemin de fidélité qui n'était pas dénué de risques, loin s'en faut. Mais abstraction faite de leur déportation proprement dite, ce n'était que la première épreuve. La seconde, celle que nous découvrons aujourd'hui, et ce n'est pas la dernière, la pression, le danger vont s'accentuer graduellement, ainsi que nous le verrons lors de cette série. Et je note un point important avant d'aller plus loin dans la suite de notre récit. Si Daniel avait succombé à la première épreuve, s'il avait renoncé à obéir à la loi divine pour sauver sa vie en acceptant de manger les viandes qui lui étaient servies, tout ce qui lui était servi, il n'en aurait pas été pour autant moins confronté à cette deuxième épreuve. Il aurait pu se dédouaner pour une très noble raison, ne pas mettre la vie de ses compagnons en danger, plutôt que de les conduire sur ce chemin de tous les dangers, mais en tout état de cause, il n'aurait pas pu leur épargner cette seconde épreuve. Et au contraire, il est probable que le miracle des légumes qui font grossir, je reprends l'expression d'Éric, constitue un point d'appui, une manifestation de l'approbation divine qui donne l'assurance et la paix dans les épreuves d'aujourd'hui et de demain. Et ce point d'appui est d'autant plus fort qu'ils ne l'ont pas recherché, mais que, dans sa grâce, Dieu leur a donné, comme pour leur dire « Je suis avec vous, continuez, vous êtes dans ma volonté. » Et nous ne savons pas comment, mais Dieu nous délivrera de la main des hommes demain, et nous acceptons même l'éventualité qu'il ne le fasse pas. Néanmoins, que notre chemin mène à la délivrance ou qu'il débouche sur une nouvelle épreuve, notre fidélité en sera le meilleur guide. Et je note par ailleurs que ni Daniel ni ses compagnons ne sont directement visés par l'humeur massacrante du roi. On dirait aujourd'hui qu'ils sont les victimes collatérales d'un combat qui se situe sur un tout autre plan. Mais est-ce que ce n'est pas souvent le cas, très souvent le cas? Est-ce que nous pensons que nos églises inquiètent à tel point nos gouvernants qu'ils en viennent à édicter des lois qui nous visent directement? Non, évidemment. Mais les contextes changent, et parfois du tout au tout. Et c'est le cas ici, la preuve, avec la déportation. Daniel vivait dans un pays en paix, et il a été déporté. Le contexte a changé du tout au tout. Quel que soit le contexte, même en dehors de toute persécution directe, nous sommes néanmoins soumis à des enjeux qui bien souvent nous dépassent, mais néanmoins nous rattrapent et nous touchent. Quel que soit le contexte, nous avons un rôle à y jouer et il s'agit de le découvrir. Et donc nous allons lire la suite pour découvrir comment Daniel va s'y prendre pour découvrir le sien. Et je vous invite à continuer notre lecture à partir du verset 14, nous irons jusqu'au verset 18. Alors Daniel s'adressa avec sagesse et tact à Arioc, le chef des gardes du roi, qui s'apprêtait à tuer les sages de Babylone. Il demanda à Arioc, l'officier du roi, « Pourquoi le roi a-t-il promulgué une si terrible sentence ?» Alors Arioc lui exposa l'affaire. Daniel se rendit auprès du roi et lui pria de lui accorder un délai en lui disant qu'il lui ferait connaître l'interprétation demandée. Puis il rentra chez lui et informa ses compagnons, Anania, Michaël et Azaria, de ce qui s'était passé. En leur demandant de supplier le Dieu des cieux que dans sa grâce il leur fût révélé ce secret afin qu'on ne les fasse pas périr, ses compagnons et lui, avec le reste des sages de Babylone. Plus fort de sa première expérience, dans un premier temps, il procède tout de même un peu de la même manière. Il ne cherche pas à s'adresser directement au roi, mais va plutôt s'approcher de celui qui est chargé d'exécuter son ordre, en la personne d'Arioc. Mais là, quand même, vous reconnaissez, on a franchi un palier dans le risque. Aller au-devant de celui qui a reçu l'ordre de m'éliminer. Wow, ça fait flipper. Et nous lisons que Daniel s'adressa avec lui avec sagesse et tact. Et la grande majorité des traducteurs, j'ai essayé de savoir qu'est-ce que le fond du sens de ces mots, et la grande majorité des traductions s'accordent sur ce point. Sagesse et tact, d'une manière prudente et sensée, avisée et prudente. Hein, on est toujours dans la même notion. Ces mots, sagesse, prudence, tact, découlent d'une nécessité évidente. Comment envisager qu'on puisse agir autrement dans de telles circonstances? Comment serait reçu un personnage parlant fort et sûr de lui? Encore moins une personne hautaine et arrogante. Et derrière cette évidence se cache la question de la souveraineté de Dieu dans le choix des personnes qu'il suscite pour agir dans un contexte donné. Ici, dans cette situation délicate, c'est un euphémisme, Dieu a choisi Daniel. Et le mieux peut-être pour illustrer ceci, est de prendre une contre-hypothèse. Pierre. Je vous propose Pierre pour aller voir le roi dans ce contexte-là. Je parle bien de Pierre, le Pierre que nous connaissons des Actes des Apôtres et dont les actes sont rapportés au tout début de la naissance de l'Église. Est-ce qu'on peut imaginer sereinement le Pierre que nous connaissons, provocateur, devant le grand conseil qui va jusqu'à l'accuser de les avoir crucifié Jésus-Christ? Est-ce que nous pouvons envisager qu'il soit l'homme de la situation? Alors, lors d'une pastorale régionale, il y a 2 semaines, j'ai été marqué par une parole d'un pasteur à la retraite, une parole expérimentée, qui a dit ceci: « Je suis la bonne personne » là où Dieu m'a placé. Non pas la bonne personne en soi, je ne suis pas une bonne personne, je suis la bonne personne là où Dieu m'a placé. Non pas la bonne personne en soi, mais le choix souverain que Dieu a fait en tant qu'instrument pour faire face à la situation. À tel point que la personne elle-même ne peut pas le contester et encore moins s'y soustraire. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Jonas, sage, prudent, avisé, diplomate, c'est pour toi, Daniel, ici et maintenant. Volontaire, enthousiaste, provocateur, responsable, c'est pour toi, Pierre, établir l'Église, ici et maintenant, Jérusalem. Persuasif, charismatique, un trimonet, c'est pour toi, Jonas, pour amener ces méchants à la repentance. Instruit, zélé, visionnaire, réformateur, c'est pour toi, Paul, pour faire grandir l'Église et poser ses fondements doctrinaux. Et la sagesse de Daniel ressort d'une manière éclatante dans l'obtention du délai qu'il demande au roi. Et je trouve qu'il y a un clin d'œil très, très savoureux au regard de l'attitude que le roi, l'attitude du roi qui a accusé les astrologues de quoi ? De chercher à gagner du temps. Or, comme tout dirigeant, du temps, il n'en a pas. Il a un pays à gouverner. Et il sent bien que ce rêve est de toute première importance pour lui et pour son pays. Dieu cherche à lui parler. C'est confus encore en lui, mais il est interpellé. Confus, mais interpellé. En me mettant à la place de Daniel, je me dis que je pourrais peut-être profiter de son habileté pour le faire parler, m'en dire un peu plus sur ce rêve, me mettre sur la piste. Comment le Daniel, le sage, le prudent, l'avisé, en arrive-t-il à s'engager avec autant de hardiesse, à répondre d'une manière aussi précise à une question aussi imprécise ? Mais il faut se souvenir, il a déjà été un peu sur ce terrain-là, en s'engageant sur son régime alimentaire, mais évidemment là, c'est une toute autre dimension. Il est clair que la confiance qu'il pourrait avoir en lui, là, ça ne va pas suffire. Et c'est là que la puissance de Dieu se manifeste dans notre passage. On va lire dans quelques minutes la suite, où nous verrons comment Dieu a révélé la réponse à Daniel, mais le moment décisif, il est là, lorsqu'il a poussé Daniel à sortir de sa zone de confort, confort tout relatif, hein, pour s'engager dans l'inconnu. Moïse avec Pharaon, Esther avec Xerxès, Pierre le juif avec Corneille le païen, Ananias, le disciple de Jésus, avec Saul, l'ennemi des chrétiens. La Bible est truffée d'exemples. Qui sait ce que Dieu, utilisant qui nous sommes, puis dépassant qui nous sommes, va faire pour manifester qui il est, lui ? La confiance en Dieu est la clé de ce saut dans l'inconnu. Et peut-être Daniel a-t-il vécu à ce moment-là le moment le plus fort avec Dieu. Et je crois que le moment le plus dur est celui qui vient juste après, l'attente de la délivrance, le questionnement intérieur aussi sur ce qui s'est passé et comment il a agi, exposer la situation à ses amis, supporter leur regard inquiet, peut-être même réprobateur. Parce que c'est aussi une chose très concrète. On engage bien souvent, pas que nous-mêmes, dans ce genre de choses. Et de toute façon, celui qui est concerné au premier chef, c'est Dieu, de qui nous parlons, de qui nous réclamons. Est-ce que nous lui suivons ou est-ce que nous lui demandons de nous suivre ? C'est pour dire que l'expérience que vit Daniel ne peut pas être recherchée. Nous n'avons pas à reproduire ce qu'a fait Daniel, pas plus que Moïse, Jonas ou Pierre. Il s'agissait d'une mission donnée, dans un contexte et un temps donné. Leur expérience nous enseigne comment vivre la nôtre. Et justement, c'est ce que nous lisons ici, de manière très claire, nous attendre à Dieu, attendre avec patience le temps de Dieu, lui abandonner ce qui lui revient et ne nous appartient plus, lorsque nous avons fait notre part, notre avenir, son travail dans les cœurs, même les plus hostiles, sa protection sur la communauté des croyants. Et même dans cette attente qui peut être longue et sans garantie de résultat, demeurer fidèle. Paul a, par exemple, espéré de longues années pouvoir aller annoncer l'Évangile en Espagne, et de ce que l'on sait, rien ne permet de penser qu'il y soit parvenu. Mais à Daniel, Dieu a fait la grâce d'une attente courte. Je vous invite à lire la suite. Au cours de la nuit, dans une vision, le secret fut révélé à Daniel. Alors celui-ci bénit le Dieu des cieux. Il dit « Béni soit Dieu dès maintenant et à toujours, car à lui appartiennent la sagesse et la force. Il fait changer les temps, modifie les circonstances. Il renverse les rois, il établit les rois. Il donne de la sagesse aux sages et à ceux qui savent comprendre, il accorde la connaissance. Il dévoile les choses, des choses profondes et secrètes. Il sait ce qu'il y a dans les ténèbres et la lumière brille auprès de lui. C'est toi, Dieu de mes pères, que je célèbre et que je loue. Tu m'as rempli de sagesse et de force et tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. Tu nous as révélé ce que le roi demande. » Ouais, Dieu trop fort. Il y a quelqu'un qui merci pour l'avancée. Je ne sais pas comment tu fais, parce que pour savoir à quel moment il faut le faire avancer, chapeau, très bien. Ah ben oui, il y a les versets. D'accord. Merci. Dieu est trop fort. Hein. Tout laisse à penser que Dieu a révélé à Daniel le secret du roi dans la nuit même qui a suivi son entretien avec lui. Et je souris, même si ce n'est pas très important, à l'idée que Dieu a interpellé le roi au cours d'une nuit, au cours d'un rêve, et que c'est également au cours d'une nuit que Daniel en a reçu la révélation. Pour le moment, Daniel est le seul à connaître le secret du roi et son explication. Rien ne permet de penser qu'il a partagé avec ses compagnons, et nous-mêmes ne les découvrirons qu'en même temps que le roi. Donc la semaine prochaine, puisque ça ne fait pas partie de notre texte d'aujourd'hui, mais c'est là, hein, pour y aller. Pour l'heure, Daniel exprime à Dieu toute sa reconnaissance et célèbre ses louanges. Dieu, tu es trop fort. Comme les légumes qui font grossir, cette expérience va consolider la foi de Daniel en prévision de l'épreuve suivante, car les choses ne vont pas en rester là. C'est important pour nous que les épreuves de la vie chrétienne soient vécues dans l'idée qu'elles nous font grandir et nous préparent à des choses plus importantes. Que la foi, la fidélité et le fil directeur qui nous permet de les traverser, le fil conducteur. Dans nos différentes versions de la Bible, foi et fidélité sont très souvent la traduction d'un seul et même mot, comme en Galates 5, 22, le texte qui nous parle du fruit de l'esprit. Que les péripéties de l'histoire, la petite et la grande, nous touchent d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, et qu'une mission nous incombe, nous avons un rôle à y jouer. Que nous sommes les bonnes personnes pour tenir ce rôle, non, Dieu n'a pas fait une erreur de casting en me choisissant moi. Il ne me reprochera pas de ne pas avoir été Moïse, Daniel, ou Pierre, ou Paul, mais qu'il n'ait pas à me reprocher de ne pas avoir été Philippe. Plus important que qu'être un vaillant et bon combattant, veiller à mener le bon combat. Ne pas se tromper de combat, ne pas se tromper d'ennemi, ne pas se tromper d'allié non plus. Jésus ne nous a-t-il pas dit que nous accomplirions des choses encore plus grandes que les siennes, si nous croyons en lui ? Non pas parce que nous serions plus forts que lui, mais parce que lui sera fort en nous. Parce qu'il sait, maintenant il est auprès du Père, il agira en nous de l'intérieur, par son esprit. Des choses plus grandes, pas forcément plus grandes en soi, mais plus grandes pour nous, plus grandes que nous, qui nous font avancer et nous poussent plus loin. Pour ce monde en perdition, pour l'avancement du royaume et le salut des hommes, plus loin, plus grand, mais toujours avec Dieu.